Chapitre 15. La résurrection. Avec le chapitre 15, nous arrivons à la troisième division principale de l'épître. Dans la première division, nous avons la croix de Christ qui exclut la sagesse du monde, la liberté donnée à la chair et le culte des démons, chapitres 1 à 10. Dans la deuxième division, chapitres 11 à 14, nous avons la libre action du Saint-Esprit maintenant l'ordre dans l'Assemblée de Dieu. La troisième division place devant nous la résurrection de Christ qui triomphe de la mort et du tombeau et qui ouvre la voie à l'état parfait lorsque Dieu sera tout en tous. Il est évident que, dans l'Assemblée à Corinthe, non seulement on tolérait le relâchement moral et le désordre dans l'Assemblée, mais il y avait aussi une erreur doctrinale vitale, certains d'entre eux disant qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Verset 12. Cette erreur résultait sans doute de leur bas état moral. Le progrès du mal, comme on le voit dans cette assemblée, est solennel et instructif. On commence par des pratiques mauvaises, puis il y a du désordre dans l'assemblée, enfin il y a la fausse doctrine. Un mal mène à l'autre. Le relâchement moral ouvre la porte à la chair, ni la croix. Le désordre d'assemblée conduit au cléricalisme, à l'ordre humain et ignore l'esprit. L'erreur doctrinale ouvre la voie à l'ennemi pour saper les fondements de notre foi et attaquer la personne de Christ. Il est important de remarquer que, chez ceux qui propageaient cette erreur, on ne voit pas qu'ils niaient l'immortalité de l'âme, mais ils s'opposaient à la vérité que le corps ressusciterait. La résurrection est ceci. Ce qui est mort retrouve la vie. Elle doit donc s'appliquer au corps, car c'est le corps qui meurt, non pas l'âme. Nous lisons ainsi « Les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. » Matthieu 27, verset 52. Il est possible que ceux qui tenaient cette erreur n'aient pas eu l'intention de compromettre l'Évangile, ni de nier que Christ était ressuscité. Cependant, c'était quand même le résultat terrible de cette erreur et c'était le but de Satan. Pour faire face à ce piège du diable, l'apôtre montre comment cette erreur affecte l'Évangile, versets 1 à 11, comment elle attaque la personne de Christ et ceux qui croient en lui, versets 12 à 19. Puis l'apôtre déploie devant nous certaines bénédictions positives qui découlent de la résurrection de Christ, versets 58. Versets 1 et 2. Citation de l'Écriture. Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Fin de citation. Puisque cette négation de la résurrection sape l'évangile, l'apôtre rappelle d'abord à ses croyants l'évangile qu'il avait prêché, qu'ils avaient reçu, dans lequel ils étaient, c'est-à-dire dans lequel ils avaient leur position de bénédiction devant Dieu, et par lequel ils étaient sauvés. Mais il ajoute les mots « à moins que vous n'ayez cru en vain ». Car s'il n'y a pas de résurrection, ils avaient évidemment cru à un mythe. Cependant, l'apôtre démontre dans une remarque faisant parenthèse que la réalité de leur foi serait prouvée par le fait de tenir ferme la parole qu'il leur avait annoncée dans l'Évangile. Versets 3 et 4. Citation de l'Écriture. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le troisième jour, Écriture. Fin de citation. Il résume tout de suite l'Évangile en trois points. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ceci place devant nous la grande œuvre de propitiation de Christ pour tout le monde, prédite dans toutes les Écritures, car la loi l'expose en figure, psaume la présente expérimentalement et les prophètes l'annoncent prophétiquement. Deuxièmement, Christ a été enseveli, c'est la preuve complète de sa mort et le fait solennel que tous ses liens avec l'homme selon la chair sont rompus. Troisièmement, il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Témoignage éternel que la puissance de la mort est brisée, le diable est vaincu et Dieu est glorifié. » L'apôtre prend soin de remarquer que l'évangile qu'il prêchait, il l'avait reçu. Et nous savons par une autre épître que c'était reçu par la révélation de Jésus-Christ. Galates 1, verset 12. Rejeter son évangile, c'est donc mettre en doute la révélation de Jésus-Christ et l'autorité de l'Écriture. Versets 5 à 10. Citation de l'Écriture. Et qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Fin de citation. Ayant présenté l'évangile qu'il prêchait avec une place vitale pour la résurrection, il confirme la vérité de la résurrection de Christ en s'appuyant sur différents témoins à qui Christ est apparu après sa résurrection d'entre les morts. Il y a eu d'autres témoins, tels que Marie et les deux disciples allant à Emmaüs, mais l'apôtre est conduit à choisir certains témoins d'une importance particulière comme témoins en raison de leur service ou de leur nombre. Premièrement, Christ ressuscité a été vu de Céphas, c'est-à-dire Pierre. L'apôtre qui a été le premier à prêcher l'évangile aux Juifs et qui a été utilisé pour ouvrir la porte de la grâce aux nations. Deuxièmement, il est apparu aux 12, qu'il avait accompagné sur la terre. Troisièmement, il a été vu par 500 frères à la fois. Quatrièmement, il est apparu à Jacques, l'apôtre qui avait une place prééminente parmi les croyants juifs à Jérusalem. Cinquièmement, il a été vu de tous les apôtres, quand, au bout de 40 jours, il fut reçu dans le ciel. Et sixièmement, comme homme ressuscité dans la gloire, il a été vu en dernier par l'apôtre Paul, qui avait été le persécuteur de Christ et des siens, mais qui avait été désigné pour prêcher aux nations. L'apôtre se plaît à reconnaître que ce fut une grâce de Dieu qu'il fit partie des témoins de la résurrection de Christ. Et si, comme apôtre, il a travaillé plus que tous, cela aussi était par la grâce de Dieu. Versets 11 à 19. Citation de l'Écriture. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Or, si Christ est prêché, qu'il a été ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection de mort? Mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes trouvés de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Fin de citation. Ainsi, que l'évangile fut prêché par Paul ou par le groupe important de ceux qui avaient vu Christ ressuscité, la résurrection de Christ en était comme la clé de voûte. Or, c'était cet évangile qui avait été cru par les Corinthiens. En face de telles preuves, il était donc impossible de nier la résurrection de Christ. Comment alors pouvait-on dire qu'il n'y a pas de résurrection de mort? Hélas! Puisqu'il y avait des personnes qui osaient le dire, l'apôtre se met à montrer les conséquences solennelles de cette erreur. Premièrement, quelle que fût la croyance de ceux qui promouvaient cette erreur, c'était une attaque contre la personne de Christ, car s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'a pas été ressuscité. Deuxièmement, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est une fable et est vaine. Et si la prédication est vaine, la foi des auditeurs est futile. Ils mettent leur foi en quelque chose de faux. Quatrièmement, si des prédicateurs prétendent venir de Dieu et prêchent des fables, ce sont de faux témoins de Dieu. Cinquièmement, ceux qui mettent leur foi dans ce qui est vain sont encore dans leur péché. Sixièmement, si ceux qui sont dans leur péché se sont endormis, ils doivent avoir péri. Septièmement, si la résurrection est une fable, les vivants qui la professent sont les plus misérables de tous les hommes. Car à cause de la foi en la résurrection, ils ont renoncé à ce présent siècle et n'ont rien pour le futur. Ainsi, l'apôtre montre que cette erreur fatale déshonorait Christ, condamnait la prédication comme une fable, rendait inutile la foi des auditeurs, réduisait les prédicateurs à l'état de faux témoins, faisait que ceux qui étaient endormis avaient péri et rendait les croyants vivants misérables au plus haut point. Verset 20. Citation de l'Écriture. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Fin de citation. Après avoir montré les conséquences solennelles qui découlaient inévitablement de cette erreur, l'apôtre présente maintenant, par contraste, les résultats bénis qui découlent de la grande vérité que maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts. Christ, ressuscité d'entre les morts, est les prémices de ceux qui sont endormis. Sa résurrection est bien le gage que tous seront ressuscités, les justes pour entrer dans leur bénédiction finale et les injustes pour passer en jugement. Acte 17, verset 31. Parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Mais ici, sa résurrection est le gage de la résurrection de ceux des siens qui se sont endormis. Leur résurrection sera sur le modèle de sa résurrection, une résurrection d'entre les morts. Pour les méchants, ce ne sera pas une résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire une résurrection dans laquelle certains sont tirés de la mort tandis que d'autres sont laissés. Ce sera simplement la destruction de la mort, ayant pour effet que tous ceux qui sont dans les tombes ressusciteront immédiatement. Versets 21 à 23. Citation de l'Écriture. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. Car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants, mais chacun dans son propre rang. Les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Fin de citation. L'apôtre montre ensuite que si la mort est entrée par l'homme, de même aussi la résurrection est apportée par l'homme. Il y a deux races d'hommes caractérisées chacune par leur chef respectif. Tous ceux qui sont liés à Adam tombent sous le coup de la mort. Tous ceux qui sont liés à Christ seront rendus vivants. Le « tous » dans le cas d'Adam embrasse la race entière, tandis que le « tous » dans le cas de Christ ne concerne que sa famille. Le verset 23, qui parle de l'ordre de la résurrection, établit très clairement que ce « tous » concerne Christ et ceux qui sont de Christ. Christ a été ressuscité le premier, les prémices, non pas les prémices de la résurrection des morts, mais les prémices de ceux qui sont ressuscités d'entre les morts. Cette résurrection des siens aura lieu à sa venue et inclura certainement tous les saints de l'Ancien Testament, car eux aussi sont du Christ, bien que sans doute l'apôtre, en écrivant à l'assemblée à Corinthe, ait plus particulièrement l'Église en vue. Versets 24 à 28. Citation de l'Écriture. Ensuite, la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toute chose. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. » Fin de citation. De la résurrection de ceux qui sont de Christ, l'apôtre passe directement à la fin du royaume terrestre de Christ, sans mentionner la résurrection des méchants. Cette fin sera atteinte quand toute principauté, autorité et puissance opposées seront abolies, quand tous les ennemis auront été abattus, et que le dernier ennemi, la mort, aura été détruit. Ceci implique la résurrection et le jugement des morts, même si ce n'est pas spécifiquement mentionné. Le grand objectif du royaume de Christ sera de soumettre l'univers entier à Dieu. Comme par un seul homme, Adam, la création a été assujettie au péché et à la mort et à la puissance du diable, de même aussi un seul homme, Christ, viendra à bout de tous les ennemis et tout sera soumis à Dieu. La fin, ici, verset 24, n'est pas simplement la fin de l'époque actuelle, comme en Matthieu 13, verset 39, et la moisson, c'est la consommation du siècle. Et Matthieu 13, verset 49, il en sera de même à la consommation du siècle, les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes. La fin de l'époque actuelle introduit le royaume de Christ. Ici, la fin marque la fin du royaume et le début de l'état éternel avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. La dernière partie du verset 24 et les versets 25 et 26 décrivent le caractère du règne de Christ, le dernier acte étant la destruction de la puissance de la mort. Puis, quand Christ sera venu à bout de tout le mal, il remettra le royaume à Dieu le Père. Le passage entier considère le Fils comme étant devenu homme pour accomplir la volonté de Dieu en amenant toute la création dans la soumission à Dieu. Pour accomplir ce grand objectif, Dieu a confié la domination universelle au Fils devenu homme. Après avoir tout amené dans la soumission à Dieu le Père par le moyen de la puissance de son règne, il restera encore l'homme soumis comme quand il était sur cette terre, afin que Dieu soit tout en tous. Le Fils ne cesse pas d'être Dieu et d'être un avec le Père, comme quand il était sur la terre, mais Christ prendra sa place comme homme, chef de toute la famille des rachetés, étant en même temps Dieu béni éternellement, un avec le Père. Pensée de J.N. Darby. Il n'est pas dit que le Père sera tout en tous, mais que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sera tout en tous. Quel monde béni ce sera quand, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Dieu sera l'objet de tous et sera moralement manifesté en tous, car n'est-ce pas le sens de ces paroles, si simples dans leur langage, mais si profondes dans leur signification ? Versets 29 à 32. Citation de l'Écriture. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux? Pourquoi aussi nous bravons-nous le péril à toute heure? Par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour. Si, pour parler à la manière des hommes, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Fin de citation. Il est bon de remarquer que les versets 20 à 28 forment une parenthèse dans laquelle l'apôtre part du grand fait de la résurrection de Christ et retrace ses effets considérables par rapport aux siens avec le royaume jusqu'à la fin du temps, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, quand Dieu sera tout en tous. Ayant montré les résultats à très long terme de la résurrection, l'apôtre reprend au verset 29 le fil de son argumentation des versets 18 et 19. Dans ces versets, il avait prouvé que, s'il n'y a pas de résurrection, ceux qui sont endormis auraient péri, et les croyants qui vivent seraient encore les plus misérables de tous les hommes. Il pose maintenant deux questions en relation avec ces deux groupes. Premièrement, si ceux qui sont endormis ont péri, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux? Le baptême est une figure de la mort et implique que le baptisé accepte la place dans laquelle la mort de Christ met le croyant par rapport au monde. Christ, par sa mort, et les croyants qui se sont endormis, ont effectivement rompu leur lien avec ce monde. Par le baptême, nous qui vivons, nous nous identifions en figure avec Christ et avec les saints endormis dans leur mort au monde. Combien cela perd tout son sens si les morts ne ressuscitent pas. Deuxièmement, en poursuivant l'argument du verset 19 que, s'il n'y a pas de résurrection, nous, croyants, sommes les plus misérables de tous les hommes, l'apôtre demande « Pourquoi aussi bravons-nous le péril à toute heure ?» Quelle folie de courir le risque de mourir s'il n'y a pas de résurrection. Il se réfère ensuite à sa propre vie de souffrance. Des souffrances pour l'amour de Christ et pour que les saints aient part avec lui à sa joie en Christ. Cette vie l'a mené constamment en face à face à une mort violente, de sorte que, dans l'esprit de sa pensée, il mourait chaque jour. L'opposition à Éphèse était si violente qu'il avait désespéré même de vivre. Les hommes se comportaient comme des bêtes, et en parlant au figuré à la manière des hommes, il avait combattu contre les bêtes à Éphèse. Quel intérêt y avait-il à supporter toute cette souffrance et à mettre en danger sa vie si les morts ne ressuscitent pas? S'il n'y a pas de résurrection, n'aurait-il pas été plus sage d'agir sur le principe de ceux qui disent « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons » Versets 33 et 34. Citation de l'Écriture. Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement, et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. Fin de citation. L'apôtre, considérant les choses d'un point de vue moral, voit que, derrière la fausse doctrine, il y avait une mauvaise conduite. En effet, des vues fausses peuvent bien provenir de l'ignorance du fait qu'elles se rattachent à un système de faux enseignements. Mais quand une âme a été dans la lumière de la vérité et qu'elle adopte ensuite une erreur grave qui nie une grande vérité fondamentale du christianisme, on trouve en général qu'une mauvaise conduite se cache derrière la mauvaise doctrine et qu'à cette mauvaise conduite se rattachent des associations mondaines qui corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi l'apôtre appelle ses saints à se réveiller pour vivre justement et à ne pas pécher. En outre, se laisser aller quant à soi-même et ses associations avec le monde prouve seulement combien peu il connaissait Dieu. Certains, en effet, n'avaient pas la connaissance de Dieu. C'était à leur honte. Versets 35 à 41. Citation de l'Écriture. Mais quelqu'un dira, « Comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils ? » Insensé. Ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain, de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu'une des autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu, et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais différente est la gloire des célestes, et différente est celle des terrestres. Autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles. Car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Fin de citation. Après avoir montré la vie pratique du croyant, qui, gouverné par la vérité de la résurrection, prend une place à part du monde, l'apôtre traite maintenant des objections de certains rationalistes qui demandaient « Comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils ?» Celui qui soulève de telles questions prouve qu'il est un insensé, qui soumet le Dieu tout-puissant et omniscient à des limites humaines et qui rejette tout ce qu'il ne peut pas expliquer. L'apôtre réprimande cette folie en rappelant à l'objecteur ses propres actions. « Ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. » Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain, soit de blé, soit de quelque autre semence. Vous semez, dit l'apôtre, mais Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu. L'homme peut mettre la semence dans le sol, mais l'homme ne peut pas la faire pousser. Encore moins l'homme peut-il lui donner un corps à son gré. la mort précède forcément la résurrection. La mort est une dissolution, mais non pas un anéantissement. La semence, comme telle, meurt pour donner naissance à une plante. Quelqu'un a dit, sans doute, il y a un germe, un principe de vie. Mais qu'est-ce que l'objecteur en sait? S'il n'est pas du tout au courant de cela, même en rapport avec une semence, est-il en position d'épiloguer au sujet du corps? Nous savons que la plante provient de la semence, mais nous ne savons pas comment. C'est pourquoi l'apôtre ne nous dit pas comment le corps est ressuscité, bien qu'il réprimande la folie de ceux qui nient la résurrection du corps, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir comment elle peut s'accomplir. Il existe en effet différents corps dans le monde végétal, chaque semence a son propre corps, et c'est un corps donné par Dieu. Dans le monde animal, il y a des corps d'hommes, de bêtes, de poissons, d'oiseaux. Dans le monde matériel, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Et dans les corps célestes, il y a des différences, car le soleil, la lune et les étoiles diffèrent en gloire. Versets 42 à 44. Citation de l'Écriture. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel. Fin de citation. S'il y a donc toutes ces différences dans les corps du monde naturel et matériel, avons-nous besoin de soulever des questions ? Parce qu'il y a une immense différence entre nos corps actuels et les corps que nous aurons en résurrection. L'apôtre saisit ainsi l'occasion offerte par la folie de ses raisonneurs pour placer devant nous le caractère du corps de résurrection et l'état de résurrection. En contraste avec nos corps actuels, le corps ressuscité sera incorruptible, glorieux, puissant, spirituel. Les croyants ne seront pas des esprits désincarnés, mais dans la résurrection, ils recevront des corps spirituels, même si, à l'heure actuelle, avec nos esprits finis, nous ne comprenons guère la notion d'existence spirituelle ou de corps spirituel. Nous voyons qu'il y a un corps naturel tout à fait adapté aux conditions de la vie présente sur la terre. Nous savons que, pareillement, les croyants auront un corps spirituel tout à fait adapté aux conditions célestes. Versets 45 à 50. Citation de l'Écriture. C'est ainsi aussi qu'il est écrit « Le premier Adam devint une âme vivante, le dernier Adam un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. » Fin de citation. Comme preuve de ces grandes vérités, l'apôtre se tourne vers l'Écriture. Il dit « C'est ainsi aussi qu'il est écrit. » Citant Genèse 2, verset 7, il nous rappelle que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais comme nous le savons, le premier Adam est la figure de celui qui devait venir. Romains 5, verset 14. Le dernier Adam, Christ. Et Christ est le chef d'une nouvelle race. Eux ne seront jamais remplacés ni par un autre chef, ni par une autre race. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. C'est lui qui, en résurrection, pouvait souffler sur ses disciples et dire « Recevez l'Esprit Saint » et ainsi communiquer la vie dans l'Esprit. Mais ce qui est naturel vient avant ce qui est spirituel, et le premier homme est terrestre, fait à partir de poussière de la terre. Le second homme est céleste. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, ainsi, nous, chrétiens, nous porterons l'image du céleste. Ici, l'apôtre ne parle pas du chrétien présentant le caractère de Christ et transformé déjà maintenant en la même image de gloire en gloire, de Corinthiens 3, verset 18, mais il parle de la pleine conformité à l'image du céleste quand nous aurons nos corps de résurrection. Il est évident que ces corps présents, fragiles, faits de chair et de sang, et sujets à la corruption, ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu et de son incorruptibilité. Versets 51 à 55. Citation de l'Écriture. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire ?» Fin de citation. Cela étant, la question se pose, comment et quand obtiendrons-nous ces corps spirituels et incorruptibles, puisque certains croyants vivent encore sur la terre et certains sont déjà endormis? L'apôtre répond à ces questions en révélant un mystère, une des vérités de Dieu qui ne pouvait être connue avant qu'elle ne soit révélée aux siens. Nous apprenons ainsi que tous les croyants ne passeront pas par la mort. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Les saints de l'Ancien Testament, comme Job, connaissaient la résurrection des morts. Job 19, verset 26. Et après ma peau, ceci sera détruit. Et de ma chair, je verrai Dieu. Mais ils ne savaient rien de ce grand secret que les corps naturels des saints vivants seront transformés en corps spirituels sans que ces saints passent par la mort. Quelle preuve de la puissante efficacité de la mort de Christ qui a répondu si entièrement à la sentence de mort sur le croyant que celui-ci puisse être changé en image du céleste sans passer par la mort. Mais, si nous n'allons pas tous passer par la mort, nous serons tous changés, à la fois les saints endormis et les vivants. Ce grand changement prendra place en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. En parlant de la dernière trompette, l'apôtre fait sans doute allusion à l'acte final de la levée d'un camp romain, quand les soldats se mettaient en marche, une image bien comprise en ces jours-là. En un instant, ce corps, qui peut se corrompre, revêtira l'incorruptibilité, et ce corps qui est mortel revêtira l'immortalité. Au vu de ce puissant triomphe sur la puissance de la mort, nous pouvons bien dire avec Ésaïe « La mort a été engloutie en victoire ». Quelle grande puissance que celle qui ressuscitera les morts de tous les lieux de cette terre où, au cours de tant de siècles, a reposé la poussière des saints endormis, soit par le martyre, soit par le dépérissement naturel. Et, en même temps que ces saints endormis, cette grande puissance changera en l'image du céleste tous les saints encore en vie, en un instant, en un clin d'œil. Regardant en arrière la longue et triste histoire du monde déchu, on voit l'ombre de la mort s'étaler partout et sur tous. Regardant en avant vers ce grand événement de la résurrection, le croyant peut dire « Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire ?» Cette parole provient du prophète Osée qui donnait une promesse de l'Éternel « Je les délivrerai de la main du Shéol, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes pestes? Ô Shéol, où est ta destruction ?» Osée 13, verset 14. Versets 56 et 57. Citation de l'Écriture. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. L'apôtre nous rappelle que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a porté l'aiguillon quand il a été fait péché sur la croix, et nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Devant la bénédiction dont parle cette vérité qui remplit notre âme, l'apôtre éclate en louange envers Dieu. Verset 58. Citation de l'Écriture. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Fin de citation. C'est pourquoi, à cause de la puissante victoire que Christ a remportée par sa mort et dont sa résurrection témoigne, et à cause de la pleine bénédiction où nous entrerons en un clin d'œil, soyons fermes pour maintenir la vérité. Ne soyons ébranlés par aucune des attaques de l'ennemi, et abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que tout labeur et toute souffrance auront leur contrepartie glorieuse et ne seront pas en vain.